en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les académiciens, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir cet après-midi. C'est un honneur pour l'entreprise que je dirige et c'est une chance pour le métier que j'exerce. Parce que c'est un métier que beaucoup, à tort, en ne le regardant que de l'extérieur ou de loin, considèrent comme poussiéreux, alors qu'il nous semble qu'il joue un rôle économique et social absolument majeur. Et donc, dans le cadre de ce cycle de conférences que vous organisez, je suis heureux de voir que l'assurance a sa place et que la réussite des entreprises peut être considérée comme un élément de réussite et de rayonnement de la France dans le monde. Ce que je voudrais essayer de faire cet après-midi, c'est de vous dire d'abord quelques mots sur ce qu'est notre lecture du rôle fondamental que l'assurance joue dans l'équilibre et dans le développement de nos sociétés. Vous dire ensuite un mot de la lecture que nous faisons du développement d'AXA, qui est un développement à la fois important et récent à l'échelle de cette maison. Quand on parle sous le regard de Richelieu, on sait qu'on mesure en siècles et avec exigence. L'aventure d'AXA, ce sont quelques dizaines d'années, pas mal d'exigences aussi, je crois. Et je voudrais vous dire un mot donc de ce qu'ont été les fondements de cette réussite et de ce que sont aussi aujourd'hui, parce que toutes les réussites sont transitoires et les risques sont toujours élevés, ce que nous considérons être les défis auxquels nous aurons à faire face dans les années qui viennent, dans un monde dont nous considérons qu'il est en train de vivre une véritable renaissance et que cette renaissance, comme toutes les renaissances, a deux faces. Une face qui est une face de progrès et d'opportunités tout à fait extraordinaire et une face qui peut, si on y prend garde, être extrêmement menaçante, surtout pour les réussites qui sont les plus établies. Je commencerai donc par vous dire un mot du rôle que nous pensons que l'assurance joue dans l'ensemble de nos sociétés, et ce depuis extrêmement longtemps. Il me semble que trop de gens sous-estiment à la fois le caractère essentiel de la contribution de l'assurance au développement économique et à la prise de risque, et que trop de gens sous-estiment ce qu'est son rôle de stabilisateur et d'absorbeur de choc. Le premier rôle de l'assurance, c'est d'accompagner les gens qu'elle protège, d'accompagner ses clients dans la prise de risque, et c'est donc, quelque part, d'être un des puissants moteurs du développement et de la croissance. Traditionnellement, quand on introduit quelqu'un dans ce monde un peu mystérieux, on dit que les premiers mécanismes d'assurance, de solidarité mutuelle, sont apparus avec les caravanes marchandes qui prenaient la route de la soie, parce que le risque que prenait individuellement chaque marchand aurait été insupportable s'il n'avait pas été, en quelque sorte, partagé ou mutualisé. Ensuite, quand on regarde ce métier avec un œil plus essentiellement européen et un biais d'ailleurs pas tout à fait exact qui consiste à croire que nous avons dominé le monde pendant très longtemps, on parle de l'essor du commerce maritime et on renvoie à l'exemple de Christophe Colomb dont en fait l'expédition était politique mais aussi marchande et avait été financièrement syndiquée, assurée pour faire en sorte que les risques soient répartis en un nombre de gens susceptibles de les absorber. De façon beaucoup plus récente, l'exemple qui, moi, depuis le début de ma vie professionnelle, m'a le plus frappé est celui de l'assurance construction et des conséquences de l'attentat du 11 septembre à New York. Quand les attentats du 11 septembre ont eu lieu et que brusquement il est apparu que des immeubles de taille extrêmement importante pouvaient être détruits en une attaque, la construction s'est arrêtée à New York pendant quelques semaines parce que le risque de construction n'était plus assurable. Il a fallu trouver un nouvel équilibre, mais cela a montré à quel point la nécessité de syndiquer des risques unitaires importants et de les répartir en un nombre de mains suffisant pour les rendre absorbables était une condition nécessaire à l'existence et au développement de ce secteur. À titre anecdotique, ce que prévoyaient les modèles de risque avant le 11 septembre, c'était qu'un accident ou un attentat de ce type ne pouvait détruire que 10 étages d'un immeuble. Et on a vu que ce ne sont pas 10 étages dans ce cas-là qui ont été détruits, mais 220. Ça donne aussi une image de ce qu'est la relativité des modèles qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont. Vous vous souvenez tous sans doute de la phrase de Churchill que tous les assureurs ont en tête, qui est « Je ne crois aux statistiques que j'ai personnellement modifiées ou manipulées ». Voilà. Donc, un rôle de contributeur essentiel au développement, un rôle aussi d'absorbeur de choc et de stabilisateur instantané et de stabilisateur dans la durée. Parce que l'essence même de la mécanique de mutualisation, c'est de jouer sur le périmètre auquel elle s'applique et que ce périmètre soit un périmètre, j'allais dire, géographique ou un périmètre temporel. On peut mutualiser sur des populations plus ou moins larges, on peut mutualiser sur un horizon de temps plus ou moins large. Et je ne rentrerai pas dans le détail, vous en avez certainement de très nombreux exemples à l'esprit, mais vous voyez que tout le jeu du métier consiste à définir ce qu'est l'optimum de ce point de vue-là, où doit s'arrêter la mutualisation, où doit s'arrêter l'individualisation du risque et de l'appréciation du risque. Si on veut, et j'y reviendrai tout à l'heure, des tarifs extraordinairement adaptés à sa propre personne, on pose là une limite à ce qu'est le principe de mutualisation. Il ne faut pas oublier dans ces dimensions-là également ce qu'est la notion d'aléa, c'est-à-dire que par définition, l'assurance, comme tout métier, a ses limites, et on ne peut assurer que des choses qui sont aléatoires. Si elles sont trop prévisibles au niveau de l'individu, elles ne sont plus aléatoires. Alors nous avons toujours des clients qui s'étonnent avec parfois un peu d'aigreur que nous refusions de les assurer parce qu'ils sont déjà accidentés. Ça arrive quelquefois en Italie. Un de mes premiers souvenirs a été de visiter une agence en Italie où quelqu'un qui venait visiblement d'avoir un accident de motocyclette était très étonné qu'on ne l'assure pas sur l'accident qui venait de se produire. Mais plus sérieusement, en matière d'assurance santé, ce sont des choses qui ont une pertinence et une difficulté particulière puisque... On ne peut pas assurer des gens qui sont déjà malades contre la manifestation de quelque chose qui s'est déjà déclaré. Donc le principe fondamental, eh bien, un principe de contribution au développement économique et un principe de contribution à la stabilité des sociétés. Je crois que c'est essentiel de le rappeler parce que quand on s'interroge sur ce que peut être la réglementation du secteur, il faut évidemment souhaiter que la réglementation permette de respecter ces principes fondamentaux, c'est-à-dire permette de maintenir et d'encourager la mutualisation, permette de maintenir et d'encourager tout ce qui fait que les assureurs se comportent dans la gestion de leurs affaires comme des stabilisateurs de long terme, c'est-à-dire comme des contributeurs importants à la fois à des investissements qui peuvent être longs, mais aussi à, je dirais, des indemnisations qui peuvent être très, très importantes. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de notre métier, quel est-il avant de vous parler précisément d'AXA et après avoir posé ces deux principes généraux? Notre métier, c'est un métier de compréhension, d'analyse de données. Il ne s'arrête pas à l'indemnisation du risque. La partie indemnisation du risque n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg. Ce que nous devons faire, c'est aider l'ensemble des clients que nous accompagnons à identifier leurs risques. Ça n'est pas un mot neutre parce que beaucoup ignorent les risques auxquels ils ont à faire face. Les identifier, les comprendre, les prévenir. La dimension de prévention est une dimension qui est très souvent négligée et c'est une dimension dans laquelle il y a un alignement d'intérêts qui est absolument parfait. Il est de l'intérêt de nos clients comme il est de notre intérêt de faire en sorte que la prévention, évidemment, anticipe l'événement. Et si malheureusement, parce qu'il y a toujours un certain nombre d'événements imprévisibles ou de risques non réductibles, le risque se manifeste, eh bien, à ce moment-là, on voit la partie la plus commune et la plus facilement comprise par l'extérieur, qui est l'indemnisation, la réparation et l'opportunité donnée d'essayer de remettre les choses dans leur état antérieur, ou en tout cas de les ramener à des états comparables. Voilà ce qu'est ce métier en quelques mots un peu théorique, et j'espère que vous m'excuserez d'avoir fait justice à 20 siècles ou 25 siècles d'existence de ce métier en quelques minutes. Alors maintenant, je voudrais vous dire un mot d'AXA en vous disant d'abord quelle a été l'histoire du développement et en essayant ensuite d'en analyser quels en ont été les ressorts. AXA est une entreprise qui est à la fois jeune et vieille. Elle est jeune parce qu'elle résulte à l'origine de la vision d'un homme, qui était Claude Bébéard, qui au milieu des années 70, quand il a pris la tête d'une toute petite mutuelle provinciale, qui s'appelait les Mutuelles Unies, et qui était à l'époque, je crois, la 24 ou 25e société d'assurance française, a eu l'intuition que ce métier était un métier qui allait devenir mondial et que par conséquent, essayer de développer son affaire en lui donnant une taille critique était une manière de la renforcer et développer son affaire en procédant aussi vite que possible à un certain nombre de regroupements. Il a eu cette intuition, il a eu une deuxième intuition qui était qu'à partir du moment où ce métier allait devenir mondial, le faire sous un seul drapeau, c'est-à-dire sous une seule marque, était quelque chose qui progressivement prendrait de l'importance. AXA était en 1974 la 24 ou la 25e société d'assurance française. J'ai eu la chance de rejoindre le groupe en 1989, en échappant à l'autorité de Jean-Claude Trichet, qui était mon patron d'alors. À l'époque, AXA venait d'absorber la Compagnie du Midi et était devenue la deuxième ou la troisième société d'assurance française, mais assez loin encore dans les classements mondiaux. Le chiffre d'affaires était à l'époque de l'équivalent de 6 milliards d'euros. Nous sommes aujourd'hui à un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 95. Donc entre le début des années 90 et cette décennie, le chiffre d'affaires a été multiplié par 15. Nous avons aujourd'hui plus de 100 millions de clients dans le monde. Nous opérons dans une soixantaine de pays. Nous sommes aujourd'hui, nous en faisons l'annonce cet après-midi, je n'irai pas jusqu'à vous dire que j'ai attendu cette séance pour que nous publions le communiqué, mais pour la cinquième année consécutive, nous sommes la première marque d'assurance mondiale, la seconde est Allianz, mais à une certaine distance, ce qui pour une marque qui a à peine 25 ans d'existence ne nous semble pas être quelque chose de négligeable. Le groupe a 160 000 collaborateurs dans le monde. Il est non seulement le premier par la marque, il est aussi le premier par le chiffre d'affaires. Et si vous regardez ce qu'est sa répartition géographique, la France dans laquelle il a ses racines, et dans laquelle il espère qu'on le laissera en mesure de les y garder, ce qui n'est pas une évidence. La France représente aujourd'hui à peu près un cinquième de son activité, un peu plus d'un cinquième. Les pays émergents, les pays que l'on a coutume d'appeler les pays émergents, qui représentaient 4% du chiffre d'affaires il y a 5 ans, représentent aujourd'hui 15%, représenteront dans 2 ans 20%. Donc dans 3 ans, la proportion du chiffre d'affaires venu des pays émergents sera supérieure à la proportion du chiffre d'affaires qui vient de France. Le reste de l'activité se répartit entre le reste de l'Europe et les États-Unis. Donc c'est un groupe qui est un groupe aujourd'hui complètement mondialisé. Si vous regardez ce que sont les structures dirigeantes du groupe, le comité exécutif du groupe qui comprend une quinzaine de personnes est un comité exécutif dans lequel les Français aujourd'hui ne représentent plus la majorité des dirigeants. Le groupe ressemble à ses clients, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus diversifié, de plus en plus mondial. Que dire encore en matière de poids économique, les actifs que nous gérons représentent aujourd'hui un peu plus de 1 000 milliards d'euros. Donc nous sommes un des principaux investisseurs institutionnels européens. Nous sommes un des premiers porteurs de dette publique européenne, même si la proportion de dette publique dans nos actifs, et notamment la proportion de dette publique des pays un peu moins bien gérés que les autres, a plutôt eu tendance à diminuer dans les dernières années. Mais tout ceci vous donne une mesure de ce qu'est le poids économique du groupe qui indemnise chaque année plusieurs millions de clients dans le monde et qui, en termes sur l'assurance dommage d'indemnités versées, verse pratiquement une vingtaine de milliards d'euros d'indemnités à ses clients pour les amener à réparer les conséquences des dommages qu'ils ont subis. Donc un poids économique qui est un poids fort. Comment est-ce que tout ceci a été possible? Je pense que ça a résulté de ce qu'a été la vision de Claude Bébert à l'époque, et derrière, bien sûr, de la capacité à la mettre en œuvre. Et là, pour moi, l'élément le plus fort a été la combinaison de la vision et des valeurs. Bien sûr, il a fallu, pour réussir, avoir une excellence technique dans son métier forte, parce que s'il n'y avait pas eu d'excellence technique, eh bien le groupe n'aurait pas pu survivre dans les crises dans lesquelles il a traversé. Un des points d'ailleurs dont nous sommes fiers, tout en mesurant le fait qu'il faut toujours rester prudent et modeste dans un monde qui change assez vite, c'est qu'AXA fait partie des très rares groupes financiers qui, dans les crises que le monde a subies depuis le début des années 2000, n'a jamais perdu d'argent. Nous n'avons jamais eu à faire appel à l'extérieur et nous n'avons jamais perdu d'argent. Nous avons gagné tous les ans, nous sommes restés profitables et nous n'avons jamais cessé de verser des dividendes à nos actionnaires. Donc il a fallu évidemment une certaine excellence technique, mais je pense que ce qui a fait la différence, ça a été la vision combinée avec ce qui était un sentiment extrêmement fort sur la nécessité d'avoir une culture d'entreprise et des valeurs extrêmement solides. La vision, elle était simple. C'est un métier qui va devenir mondial. C'est un métier dans lequel la taille est un élément de la réussite parce qu'il y a des effets d'échelle et parce que ces effets d'échelle sont assez simples à comprendre. On peut mutualiser sur un périmètre plus large. On peut attirer des gens de meilleure qualité. On peut obtenir de ses fournisseurs, entre guillemets, de meilleurs prix de revient. En matière d'investissement, on a accès à de meilleurs investissements que si on est une société plus petite. Je vais prendre une comparaison très simple avec ce que peut être une très respectable mutuelle de province en France. Et il y a des mutuelles de province qui arrivent à vivre ou à survivre. Si une mutuelle de province a l'essentiel de ses clients en Bretagne ou sur la côte atlantique, et si se produit une assez grande catastrophe, une grosse catastrophe naturelle, eh bien l'équilibre de la mutuelle par absence de diversification des risques peut être compromis. Si elle a mal calculé ses programmes de réassurance, si elle n'a pas pris garde à un certain nombre de choses, son équilibre peut être assez facilement compromis. Nous sommes dans 57 pays, les risques se mutualisent, quelque part. Si nous voulons nous réassurer, nous pouvons d'abord conserver une partie des risques pour nous, et nous économisons ce que nous devrions laisser aux réassureurs, et ce que nous réassurons, nous l'obtenons à de meilleures conditions, parce que nous sommes des acheteurs de gros. Quand nous négocions avec les constructeurs automobiles, parce que de façon indirecte, nous sommes les plus gros clients mondiaux des constructeurs automobiles, étant donné le nombre de voitures accidentées que nous devons faire réparer pour le compte de nos clients, nous obtenons dans les garages de meilleures conditions que de petits acteurs qui sont en phase 2 individuellement. Lorsque nous sommes des assureurs santé et que nous avons des millions de clients dans le monde qui ont recours à nos services pour assurer leur santé de façon totale ou de façon complémentaire, les tarifs que nous pouvons obtenir des réseaux de médecins, des réseaux d'hôpitaux, dans les pays qui fonctionnent de manière à peu près moderne, sont évidemment de bien meilleurs tarifs que ceux peuvent obtenir des acheteurs de plus petite taille. Donc une vision très simple qui était que le métier exercé de façon mondiale serait en fait favorable à ceux qui auraient la prévoyance de comprendre que ça deviendrait un avantage compétitif. Un certain nombre d'éléments venant avec cela autour des valeurs. La première chose, C'est la vision qu'on ne peut bien faire qu'un métier à la fois, surtout quand il est déjà relativement compliqué. Je pense qu'une des forces du groupe a été de résister aux sirènes des années 90-2000 sur les conglomérats financiers et à l'époque la banque assurance. Il n'y a peu ou pas d'exemples de banques assurances réussies dans le monde, et la plupart de ceux de nos concurrents qui ont essayé de mélanger la banque et l'assurance, alors à l'exception bien sûr de notre ami Michel qui a réussi à faire de Cardiff un outil redoutable, mais quand on regarde ce qui est arrivé à la plupart de ceux qui étaient nos grands concurrents et qui ont mélangé leurs deux activités, ça s'est terminé par un désastre. La banque américaine Citi, qui avait récupéré Travelers, a connu le sort que vous savez. ING a fait faillite, Fortis a fait faillite. Allianz n'a dû, entre guillemets, son salut qu'à l'intervention du gouvernement fédéral qui a mis dans la corbeille 18 milliards d'euros pour les aider à sauver Dresdner. 18 milliards d'euros, c'est pas un chèque négligeable. C'est d'ailleurs parce que les Allemands ont un talent tout à fait particulier pour sauver leurs institutions financières. Passé absolument sans bruit, personne n'en a parlé, mais on a, nous, quelque part, considéré que c'était un peu une distorsion de compétition. Mais voilà. Donc le modèle de la banque d'assurance n'a pas marché. Une des raisons qui nous a probablement préservés, ça a été le fait de considérer que nous étions dans un métier extrêmement bien identifié, que nous n'en sortirions pas. Ça ne veut pas dire que nous ne distribuons pas nos produits au travers des créneaux bancaires, mais là, chacun est dans son rôle. L'un apporte la distribution, l'autre apporte les produits. Troisième élément, une culture d'entreprise extrêmement forte, avec des valeurs partagées extrêmement fortes, qui sont des valeurs assez simples à comprendre, qui sont une croyance très forte dans la responsabilité individuelle et dans l'esprit d'entreprise, une croyance extrêmement forte dans le fait que le respect de l'autre est important pour réussir en matière entrepreneuriale, et que le respect de l'autre, c'est une combinaison d'écoute et de restitution d'une appréciation sur la performance, que les anglo-saxons appellent le feedback. Donc une combinaison des deux choses. Pourquoi ? Parce que quand on est une entreprise globalisée dans un monde qui va extrêmement vite, les modes d'organisation trop centralisés ne fonctionnent plus. Et l'image que nous avons coutume d'utiliser à l'intérieur de l'entreprise, que j'ai essayé de développer parce que j'aime bien les métaphores simples, c'est de dire les organisations baleines sont des organisations qui s'échouent et qui échouent. Les organisations bande poissons sont des organisations qui réussissent. Parce que dans un monde qui est de plus en plus granulaire et de plus en plus rapide, une baleine est trop lourde et à un centre de commandement et de décision trop centralisé pour comprendre tout ce que vont être les mouvements de la mer et les environnements hostiles autour d'elle. Alors qu'un banc de poissons, c'est bien un organisme naturel qui a en commun un certain ADN, l'appartenance à une espèce et un certain sens de la direction. Ça a une cohésion, mais ça conserve une flexibilité, une capacité à s'adapter au choc extrêmement plus forte. Enfin, extrêmement, beaucoup plus forte. Et nous essayons d'organiser l'entreprise de cette manière-là. Ça ne peut se faire, et c'est pour ça que je veux revenir sur les valeurs, que dans une relation dans laquelle la confiance est forte à chaque niveau de l'organisation. Et pour que la confiance soit forte, il faut que la vision soit partagée. Et que je dirais, à la limite, les principes moraux qui conduisent chacun d'entre nous soient les mêmes. C'est-à-dire que nous sachions faire la différence, à la fois techniquement, mais également dans le comportement des dirigeants, entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce que nous voulons faire, ce que nous ne voulons pas faire. Et ça, je crois que ça a été une des très grandes forces du groupe depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça suppose des décisions qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'il vous arrive d'être en face de dirigeants qui sont des dirigeants qui apportent de bons résultats, mais qui n'ont pas des comportements qui sont conformes aux valeurs. Et ce sont des sujets sur lesquels il faut être impitoyable. C'est-à-dire, ce qui importe, ce ne sont pas les valeurs, c'est le comportement. Pardon, ce ne sont pas les résultats, c'est le comportement. Si quelqu'un vous donne de bons résultats avec un mauvais comportement, ça ne sera jamais quelque chose de durable. Et j'ai eu à plusieurs reprises, et je confesse très volontiers que ça n'est pas toujours quelque chose de facile, à demander à un certain nombre de dirigeants de quitter le groupe alors que le résultat était bon, parce que je considérais que la manière dont ils les acquéraient n'était pas une manière qui était dans l'intérêt du groupe pour le long terme et qui n'était pas soutenable. Il y a un certain nombre d'organisations qui peuvent réussir dans le court terme en ayant des comportements qui ne sont pas, des comportements parfaits, mais ça n'est jamais durable. Et d'ailleurs, il est très intéressant de constater que dans la plupart des entreprises qui ont eu des difficultés sérieuses depuis 2000 ou depuis 2008, la culture d'entreprise était en général une culture d'entreprise qui comportait des failles extrêmement fortes. Soit qu'elles aient été dirigées par des patrons dictatoriaux égomaniaques, c'est-à-dire qui avaient une capacité d'écoute et de respect des autres extrêmement limitée, soit qu'elles aient été dirigées par des gens qui, au fond, n'osaient pas dire quand les choses n'allaient pas. Et en général, cela a été deux des sources d'échecs. Donc beaucoup plus que, une excellence technique qui nous aurait différencié d'autres, je pense que c'est une vision simple sur ce qui allait faire le succès du métier et un attachement extrêmement fort à ce qu'était la culture d'entreprise et les valeurs qui nous ont permis ou qui nous a permis de traverser les crises que nous avons traversées depuis 2000. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas fait de bêtises. J'ai fait des bêtises. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels j'aurais dû faire preuve de plus de réactivité ou de plus de discernement. Collectivement, nous avons eu la chance que ces bêtises ne soient pas des bêtises mettant en péril la construction d'ensemble du groupe, parce que je crois que nous avons conservé une réactivité et une capacité à, accepter l'échec pour en tirer les leçons, qui nous a permis, quand ces bêtises étaient faites, de réagir peut-être un petit peu plus vite que d'autres. Un mot maintenant, parce que je ne veux pas être trop long, sur comment voyons-nous le monde aujourd'hui et pensons-nous que, au fond, la réussite que nous avons eu la chance d'avoir est une réussite durable. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait, mais nous considérons que cette réussite est fragile. J'aime trop l'histoire et les livres d'histoire pour penser que les réussites sont éternelles. Je n'y crois vraiment pas. Je pense que les institutions sont comme les hommes, qu'elles ont des périodes de croissance, d'adolescence, d'apogée et de déclin. Le meilleur moyen d'éviter le déclin, c'est de se réinventer. Le meilleur moyen de se réinventer, c'est de regarder le monde autour de soi et d'essayer de discerner ce que vont être les grandes ruptures. De ce point de vue, il nous semble vraiment que le monde que nous vivons depuis, une vingtaine d'années, parce que je pense que la grande rupture a été la chute du rideau de fer, est un monde dans lequel il y a une véritable renaissance. En tout cas, pour les entreprises et pour l'ensemble des systèmes économiques, ce qui fait le développement et son accélération, c'est la capacité à trouver au même endroit le capital, la technologie et les hommes. La réunion de ces trois ingrédients était plutôt réservée au monde de l'Ouest, tel que nous le connaissons de façon classique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La chute des systèmes communistes, la chute du rideau de fer a remélangé les cartes et a offert à l'ensemble des économies mondiales, tout ça avec une révolution technologique absolument fondamentale, la possibilité d'avoir accès à ces éléments. Donc les ferments du développement sont partout et chacun s'en saisit, avec plus ou moins de vigueur. La deuxième caractéristique du monde que nous voyons, pour moi, c'est qu'il est à la fois beaucoup plus granulaire et beaucoup plus instantané. Beaucoup plus granulaire parce que les progrès de la technologie permettent au fond d'appréhender de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise des sous-ensembles. Enfin, je pense que c'est vrai, pardon de parler vraiment comme un béotien devant vous, mais c'est vrai dans des sciences comme la médecine, c'est vrai en économie, c'est vrai à peu près partout. Nous considérons que les plus grosses menaces pour nous aujourd'hui, ce ne sont pas des institutions qui nous sont comparables. Ce sont deux personnes dans un garage. Et d'ailleurs, les États sont aussi menacés par deux personnes dans un garage si elles y font des choses qui menacent la stabilité. Les entreprises dans les secteurs technologiques sont menacées par deux personnes dans un garage. Bill Gates a commencé dans un garage. Brin et Page sur Google ont commencé dans un garage. Zuckerberg a commencé dans un garage. Pierre Gattaz, probablement à son époque aussi. Mais tout ça pour dire que les menaces, enfin, les opportunités sont formidables, mais les menaces sont asymétriques. Autrefois, on était menacé par des institutions qui avaient à peu près votre taille, et donc les observer était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, la menace pour des institutions établies vient de partout. Elle vient de choses qui ne sont pas encore des institutions et qui peuvent être beaucoup plus petites. Elle peut venir de partout géographiquement. Et quand nous regardons notre métier, si on veut se rassurer, on peut dire on a 160 000 collaborateurs dans le monde, plus de 100 millions de clients, 100 milliards de chiffre d'affaires, on gère 1100 milliards. Tout ça, c'est une forteresse inébranlable. Faux. Parce que si on regarde ce qu'est l'essence de notre métier, c'est l'identification des risques, c'est donc la capacité à aller chercher des données, à les comprendre, à les interpréter, à les manipuler, et à en tirer un certain nombre de leçons statistiques et en matière de risque. Mais quand on a dit ça, on comprend tout de suite que Google peut demain matin devenir notre principal concurrent, ou que des gens qui sont capables de trouver des algorithmes innovateurs ou des algorithmes séquents peuvent remettre en cause le fondement de notre métier. La deuxième chose sur laquelle il faut que nous soyons extrêmement vigilants, c'est que la plupart des constructions économiques reposent sur des hypothèses que trop vite on a tendance, quand on réussit, à considérer comme des dogmes. Alors que par nature, les hypothèses ne sont que des hypothèses avec leurs limites. Prendre un exemple très simple. 40% de notre activité d'assurance dommages est une activité d'assurance automobile. Repose sur des hypothèses extrêmement simples, qui sont que les automobiles ont un conducteur et un propriétaire. Ces deux hypothèses peuvent vous sembler d'une banalité absolue. Il n'est pas du tout impossible que dans 15 ans, les automobiles n'aient plus ni conducteur ni propriétaire. D'ailleurs, les automobiles sans conducteur, ça existe déjà. La Google Car, qui est la voiture que Google a imaginée, la Google Car a déjà fait, je crois, 150 000 miles sans accident. Donc, vous verrez, dans un délai compris entre 5 et 15 ans, arriver un certain nombre d'automobiles dans lesquels on n'aura pratiquement plus besoin de conduire, voire plus besoin de conduire du tout. Demain, l'automobile sera peut-être un bien d'utilité collective dont on n'éprouvera plus le besoin d'être propriétaire individuel. Si cela arrive, on voit évidemment que les fondements de notre métier peuvent être remis en cause. Donc on est dans un... Et je vais prendre un ou deux autres exemples. En matière médicale, sachant que 60% de notre activité est une activité d'assurance vie, avec des risques qui s'équilibrent entre les risques de longévité et les risques de mortalité, la capacité de la médecine à inventer un certain nombre de choses qui vont permettre de prolonger la longévité ne nous est pas indifférente. Parce que nous versons un certain nombre de pensions qui sont fondées sur des tables de mortalité prospective qui peuvent évidemment être remises en cause. À l'inverse, penser que le risque de pandémie a disparu serait juste faire preuve d'un aveuglement incroyable. Il y aura un jour une pandémie qui fera probablement des millions de morts assez rapidement dans le monde, compte tenu de ce qu'est l'interpénétration en matière de communication. Donc nous sommes dans un monde dans lequel tout va beaucoup plus vite, et donc la principale menace pour nous aujourd'hui, c'est que l'entreprise perde sa capacité d'écoute et la conscience de sa propre vulnérabilité. Et donc nous sommes dans un exercice dans lequel ce que je souhaite, moi comme patron du groupe, c'est que les équipes se livrent à un exercice qui est un exercice d'équilibriste, qui consiste à la fois à avoir la concentration nécessaire pour être capable de donner des résultats en constante amélioration, mais qui font que le court terme n'est pas menacé, mais soit aussi capable de réfléchir à ce que peuvent être les ruptures longues, qui peuvent de façon très fondamentale, non pas remettre en cause le fondement même du métier, parce que le fondement même du métier, c'est la capacité à aider les clients à comprendre et à couvrir les risques, et ça, il en existera toujours. Parce qu'il y aura toujours des risques sur la vie humaine, parce qu'il y aura toujours des catastrophes naturelles, et parce qu'il y aura toujours des comportements, entre guillemets, accidentels. Mais la manière dont le métier est exercé. Donc voilà ce qu'est aujourd'hui une des composantes essentielles du risque devant nous. Et je voudrais évoquer, pour conclure, deux ou trois éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier, c'est qu'en face de cela, il est absolument nécessaire pour que la prospérité économique continue, je dirais, d'exister au travers d'acteurs comme nous, parce que nous sommes à la fois des contributeurs de prospérité, en aidant nos clients à, voilà, je veux dire, vivre mieux, et en aidant l'ensemble de nos collaborateurs à avoir un métier. Il faut que la réglementation qui s'applique aux acteurs dans le monde développé soit une réglementation qui leur permette d'exercer leurs activités de façon conforme à ce qu'est leur fonction naturelle et sur un pied d'égalité avec des concurrents qui viennent d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça semble un truisme quand on l'exprime, mais parce qu'il nous semble qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de dérives réglementaires et fiscales qui font que les conditions du libre exercice de nos métiers ne sont plus tout à fait garanties à tout moment et que nous risquons de gâcher une partie de notre potentiel ou de perdre une partie de notre activité. Je vais en prendre deux exemples. Malheureusement, et pour mettre les pieds dans le plat, l'exemple de ce pays où on tient un discours officiel sur la compétitivité auquel même les gens les moins sophistiqués ne peuvent qu'adhérer, mais où la réalité est que sur les entreprises financières qui ont été un des principaux secteurs pourvoyeurs d'emplois du pays depuis une trentaine d'années, on a augmenté les charges salariales sur les emplois sophistiqués de façon telle que nous sommes obligés d'arrêter de créer des emplois sophistiqués en France et de nous poser la question de savoir si nous ne devons pas assez rapidement déménager ceux qui y sont. Pour les banques comme pour nous, le niveau des charges sociales sur les emplois sophistiqués a doublé en 18 mois. Doublé en 18 mois. Elles étaient déjà les plus élevées d'Europe. Ça a doublé en 18 mois. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas. Nous sommes un des grands mondiaux en matière d'asset management, c'est-à-dire de gestion d'actifs. Je ne peux plus aujourd'hui créer la moindre activité en France, et celles qui y sont encore, j'ai assez fortement intérêt à déplacer les équipes si je veux rester compétitif, parce que ce n'est pas des activités qu'on va faire pour perdre de l'argent. Deuxième exemple, la réglementation prudentielle. La prudence, c'est bien, mais à condition que ça se fasse dans le respect des règles économiques. Les assureurs sont des investisseurs de long terme naturels. Une partie du renforcement réglementaire, et là je parle devant Jacques Delarosière, avec lequel on a de nombreuses fois débattu de ce sujet, une partie de la réglementation que l'Europe a voulu et veut encore appliquer aux assureurs est une réglementation qui ne leur permet pas d'exercer dans des conditions saines leur fonction d'investisseur de long terme. Parce que la frénésie qu'il y a à vouloir adopter un certain nombre de tics, notamment l'idée que la seule religion, c'est de tout mesurer en valeur instantanée, que d'ailleurs, par un dérapage sémantique, on appelle en anglais « fair value », ce qui veut dire « valeur juste », ce qui est pour moi un jugement moral, c'est-à-dire que c'est qu'une valeur juste, ça veut dire qu'il y a une valeur injuste. Non, c'est pas une valeur juste, c'est une valeur instantanée. Tout vouloir mesurer en valeur instantanée quand on a un horizon de 30 ans, c'est mesurer le coureur du marathon sur sa performance à 100 mètres. Si on mesure le coureur de marathon à sa performance sur 100 mètres, on en fait un coureur de 100 mètres, pas un coureur de marathon. Il change son comportement et il ne gagne plus le marathon. Et donc, on s'étonne de ce que l'investissement long ne soit plus financé dans nos pays, mais on ne veut pas voir qu'une partie de cela est due au fait qu'on a mis les investisseurs longs dans l'impossibilité, à cause de règles courtes, de remplir leur rôle. Le deuxième élément que je voudrais invoquer devant vous, c'est le principe de précaution. Alors, je crois que je parle à un public qui n'est pas défavorable à ce qu'on lui fasse un sort, mais je trouve que le principe de précaution est une espèce de peur collective d'une société en décadence qui refuse d'ouvrir les yeux, que le vrai principe, c'est le principe de responsabilité, pas le principe de précaution. Que mettre dans la Constitution quelque chose qui aboutit à transformer les mentalités collectives au point que l'on dit non avant d'étudier ce qu'est la prise de risque, c'est la négation de la vie et la négation du développement. Toute l'assurance repose sur la prise de risque et l'encouragement au risque. Le principe de précaution est quelque chose que nous considérons comme mortifère pour le développement de nos sociétés. Et je pense que nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion collective sur ce sujet. Si on veut de la croissance, il faut du risque. Si on veut du risque, il faut de la responsabilité et du discernement. Mais la précaution telle qu'elle a été conçue est un faux ami et est même un vrai ennemi de la croissance et du développement. Le dernier sujet sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce que je pense que le débat est juste en train de naître, C'est ce qui va se dérouler autour de ce qu'on appelle, et pardonnez-moi de reprendre dans cette maison un terme anglo-saxon, qui est Big Data et la digitalisation. La révolution technologique que nous sommes en train de vivre est quelque chose d'absolument fascinant parce qu'elle fait exploser ce que sont les puissances de calcul et par conséquent, elle accélère de façon tout à fait remarquable la vitesse de développement et la vitesse de progression du savoir. Pour des industries qui, comme nous, sont dans un métier qui est un métier de recherche, d'agrégation, d'analyse, d'interprétation de données, c'est une mine sans limite parce que ça nous permet de, multiplier ce que sont les hypothèses. C'est la même, et là aussi je parle devant Jean Tirole qui est vraiment un très très grand spécialiste du sujet, c'est la même révolution que celle du passage du déterministe au stochastique au fond. Nos modèles de risque ont fondamentalement changé quand on est passé du déterministe au stochastique. Ce qu'on voit se passer avec Big Data, c'est-à-dire la capacité à aller chercher des données partout, qui vont nous dire ce qu'est le comportement de Monsieur Darcos sans que nous ayons besoin de poser la moindre question à Monsieur Darcos et de le connaître parfois même mieux qu'il ne se connaît lui-même. Monsieur Darcos, est-il son profil Internet ? C'est la question existentielle. Ça soulève un certain nombre de questions qui sont beaucoup plus que des questions techniques. Et je pense que la question morale et éthique sur quelle est la bonne limite à l'utilisation des données va être une question centrale dans le débat, social et sociétal des années qui viennent. Parce que d'un côté, la capacité à accumuler infiniment plus de données et à en tirer un certain nombre de leçons qui vont permettre de mieux connaître les risques d'une population, son profil, son comportement, c'est une source de progrès formidable. Parce que ça va permettre de mieux mutualiser les risques. En même temps, on voit très bien ce que peut être la limite de cette recherche ou de cette agrégation. Moi, j'y vois deux risques. Quand on sait trop de choses sur quelqu'un et qu'on veut, lui dessiner un produit qui lui est trop spécifique, c'est une limite à la mutualisation. Et si la revendication de chacun est de ne rechercher un produit qui lui est strictement adapté que lorsque celui-ci lui est favorable, et pas dans le cas où il présente un risque un peu plus élevé que les autres, c'est une limite à la mutualisation. Donc il va falloir que nous repensions les frontières de la mutualisation. Le deuxième risque, c'est où est la frontière éthique ? Et là-dessus, il est intéressant de voir que même dans des pays développés et de cultures similaires, la réponse n'est aujourd'hui pas la même. Je vais prendre l'exemple de la Suisse et de l'Allemagne. En Allemagne, quand un individu fait décrypter son ADN, si le résultat de cela est qu'il apprend qu'il est sujet à une maladie génétique, il peut le garder pour lui. Son assureur n'a pas le droit de lui demander ce qu'est le résultat de son décryptage d'ADN et il est couvert. Si en Suisse, un décryptage d'ADN fait apparaître que quelqu'un a un risque de développer une maladie génétique ou autre plus important que quelqu'un d'autre, s'il ne le dit pas, ça peut être une cause de nullité. Donc on voit que deux cultures pourtant protestantes, qui ont un tronc commun fort, n'apporte pas aujourd'hui la même réponse réglementaire à une question qui est la même. Où est la limite de ce que les anglo-saxons appellent la privacy ? Je pense que c'est un sujet de réflexion qui est beaucoup plus intéressant que le sujet du principe de précaution et qui est un élément qui va vraiment modeler nos sociétés dans les années qui viennent. J'ai été beaucoup trop long. Je voudrais conclure sur trois mots. Je pense donc que dans un univers comme celui-ci, que nous vivons à l'intérieur de l'entreprise comme une véritable chance, parce que nous voulons utiliser le socle que nous avons construit grâce aux générations précédentes et grâce à la génération qui est aux manettes aujourd'hui. Nous voulons l'utiliser comme une chance de nous insérer dans le monde de demain autour de trois principes. Un principe de diversité, parce qu'il n'y a que la diversité dans les modèles qui permet l'équilibre naturel. J'aurais pu d'ailleurs y faire allusion quand je parlais tout à l'heure de la réglementation. Quand on cherche à appliquer à tout le monde le même uniforme, on supprime la liberté. C'est vrai pour les entreprises comme pour les individus. Et l'équilibre naturel dans une économie, il repose sur la diversité des modèles en termes d'horizon de risque, en termes d'appétit pour le risque et en termes de business model. Donc nous voulons un modèle de diversité dans l'environnement qui nous entoure, à l'intérieur de l'entreprise elle-même. Nous voulons un principe de responsabilité par opposition au principe de précaution. Et nous voulons, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, nous voulons un principe de discernement. Parce que je pense que dans une société qui évolue de façon absolument formidable, comme évolue la société d'aujourd'hui, au fond, la chose la plus importante à la fin, c'est la capacité de discernement. Beaucoup plus que l'accumulation de savoir ou l'encadrement réglementaire ou légal des comportements. Donc voilà, nous voulons une société de diversité, de responsabilité et de discernement dans laquelle l'assurance puisse prospérer. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long.